Cette table ronde qui s'intitule « Roman déjanté, auteur décalé ou l'inverse ». Et donc, pour parler de ce thème, nous avons Joe Abercrombie, auteur de fantasy qu'on connaissait déjà d'abord pour sa trilogie intitulée « La première loi ». Et puis, plus récemment, qui a eu plusieurs romans qui viennent de sortir chez Bragelonne, dont « Servir froid » et le tout dernier qui est « Pays rouge ». À l'autre extrémité du spectre, nous avons Karim Berouka qui vient de sortir « Fée, weed et guillotine ». Donc vous pouvez imaginer déjà, rien que par le titre, peut-être un petit peu de quoi il parle, sachant que son précédent volume était « Les ballons dirigeables rêvent-ils de poupées gonflables ?»
Tout à fait.
Un roman dickien.
Non, c'était un recueil de nouvelles.
Voilà, un recueil de nouvelles dickien, d'après le titre. À côté, Sir Cédric, que l'on connaît pour sa série policière dont nous allons parler, les derniers étant Le premier sang et La mort en tête. Hein, c'est bien cela.
C'est ça.
Voilà. Et Madame Sylvie Miller, qui arrive.
Sylvie.
Voilà. Ici. Voilà. Donc, Sylvie Miller, qui avec Philippe Ward, a écrit déjà trois volumes de la série Lasserre, détective des dieux. Et donc...
Bon. Ils sont insortables.
Alors, je crois que plutôt qu'auteur décalé, on va parler d'auteur déjanté tout de suite, ça commence. Voilà. Merci Sylvie de nous plonger immédiatement dans l'ambiance de cette table ronde. Voilà, le cyclotron fonctionne à plein. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Sylvie Miller, va vous expliquer ce qu'est le cyclotron.
Alors en fait, le cyclotron, c'est des amis à moi qui ont trouvé ce nom-là. C'est un espèce de phénomène qui détraque l'espace-temps dans mon sillage. Et donc, il m'arrive toujours des catastrophes, des choses extrêmement improbables, un peu embêtantes, jamais graves, et quelquefois très drôles.
Bon, on va revenir dessus. Mais donc, après que vous ayez vu le cyclotron de Sylvie Miller en action, on va revenir sur le sujet original. Et j'avoue que la première chose que j'ai fait lorsque j'ai vu le sujet de cette table ronde, je suis allé sur le net et j'ai vérifié quelle était la définition exacte du mot déjanté, hors côté naturellement voiture. Et en fait, déjanté, c'est pour un personnage, par exemple, quelque chose qui est totalement hors norme. Donc, j'en ai conclu que nous allions parler de romans qui étaient soit dans la norme, soit totalement hors norme. Et donc, nous avons d'un côté Karim Berouka et Sylvie Miller, donc, où là, je crois qu'on peut parler de romans déjantés. Et puis, nous avons Joe Abercrombie et Sir Cédric, qui, eux, ont des romans... nettement plus sérieux, disons ça, au niveau de leur univers. Alors, peut-être, justement, pour que ceux d'entre vous qui ne les connaissent pas, je vais leur demander d'abord chacun de rentrer dans une description des univers qui servent de cadre à leur roman. Alors, honneur aux dames. Donc,
voilà. Voilà, alors l'univers de Lasserre. Lasserre est un détective à l'ancienne, des années 30, et qui, pour des raisons diverses et variées, a émigré en Égypte, puisque c'était un Gaulois au départ. Et l'Égypte est une Égypte qui n'est pas celle qu'on connaît, à savoir que les pharaons règnent toujours et qu'on comprend rapidement que le monde antique est resté, finalement, à continuer à se développer. Et dans cette Égypte pharaonique, les dieux circulent au milieu des hommes et leur demandent d'obéir, leur confient des missions. Et donc Lasserre va se retrouver à travailler comme détective au service des dieux.
Dieu qui d'ailleurs, particulièrement en Égypte, apprécie les très belles voitures de course.
Oui, oui. Alors effectivement, comment traiter des dieux dans ce monde-là? Dans un monde beaucoup plus moderne, les dieux seraient forcément des people avec des voitures magnifiques, donc toutes les voitures de luxe des années 30, des avions, alors que dans les années 30, il y en avait quand même assez peu. Voilà, ils vivent dans le grand luxe, souvent aux dépens des humains.
Continuons dans les univers
impitoyables.
Alors commençons comme ça. Karim Berouka.
Non, en fait, ça se passe à peu près dans un univers qui ressemble au nôtre. Hein. À part qu'il y a des fées qui viennent donner une mission à encore des détectives. C'est la soirée détective. Et je pense que ce qui est plus décalé, c'est plutôt les personnages et les archétypes, en fait. Les fées sont assez, on va dire, spéciales. Elles habitent dans un pays qui s'appelle Zongalonia. Et elles ont un château qui ressemble au château de Barbie, par exemple. Donc, mais c'est quand même c'est pas du tout des fans de Barbie. C'est des gens pas tellement recommandables, qui ont une vue de l'humanité qui les prennent un peu pour des bêtes, pour du bétail, en fait.
Et puis en plus de ça, comme le temps manifestement ne s'écoule pas de la même manière entre Zongalonia et notre univers, elles en sont restées à la France de 1791.
Oui, certes. Une d'elles est venue pour la dernière fois pendant la Révolution et du coup, il s'est passé des choses. Voilà, elle redécouvre le monde. 200 ans après, et bon, effectivement, on paye plus en assignat aujourd'hui. Et bon, c'est pas très grave. C'est dur à traduire assignat, en fait. Les assignats. The money of the time. The paper money that. Enfin voilà, mais c'est surtout sur les archétypes qui. J'ai essayé de bosser bosser, c'est un grand mot, en fait, sur l'archétype de la fée qu'on connaît de mille manières, et essayer d'en faire quelque chose d'un peu différent, et de très décalé, et de très déjanté, surtout, parce qu'elles sont assez insupportables.
Y compris, d'ailleurs, les fées classiques qui font partie du conseil, et qui, elles...
qui sont des traditionnalistes.
Sont avec le chapeau pointu, la baguette avec l'étoile, etc. Hein, vraiment...
Voilà, les vraies.
Plus archétypique que ça.
L'effet de Disney, on va dire.
Restons peut-être dans les univers policiers, et là on passe à quelque chose de complètement différent avec vous, Sir Cédric.
Oui, mais en même temps, ça m'amuse toujours la perception qu'ont les gens des choses décalées ou pas. Personnellement, j'ai jamais eu la sensation d'être décalé du tout. D'être marginal de quelque forme que ce soit, alors que c'est l'impression qu'ont les gens de l'extérieur quand ils me voient et quand ils lisent mes livres. Alors j'écris, oui, du thriller avec des enquêtes des policiers. Et ce qui m'a toujours fasciné en littérature, c'est le fantastique. Et effectivement, le fantastique est basé à la base sur un décalage, sur le changement d'angle. Quand on regarde le monde qu'on connaît tous de manière un peu différente. Et c'est l'intrusion dans notre quotidien d'éléments irrationnels, de l'étrangeté, en fait, dans nos vies. Et c'est ce qu'on retrouve dans à peu près tous mes livres à ce jour. Donc la réalité telle qu'on la connaît, avec un monde parallèle, des forces démoniaques ou angéliques, hein, ou en tout cas inexpliquées. Et j'aime bien aussi jouer avec les archétypes, hein, avec les clichés, entre guillemets, par rapport à, on va dire, un certain inconscient collectif, avec des schémas de personnages qu'on connaît bien, et pour les détourner, pour forcer le trait. Et j'ai des personnages souvent, non pas atypiques à mes yeux en tout cas, mais au moins physiquement assez différents, puisque parmi les thématiques qu'on retrouve dans tous mes bouquins, il y a le problème, la thématique de l'image, de comment on se perçoit, comment les autres nous perçoivent, comment les autres nous jugent en fonction de notre look ou des choses que l'on fait, et comment nous on s'imagine aussi que les autres nous perçoivent, ce qui n'est pas forcément... La vérité. Du coup, j'ai une flic qui travaille au 36 Quai des Orfèvres à Paris, à la brigade criminelle, qui est albinos, mais vraiment albinos, caricatural, les yeux complètement rouges, à la Elric de Mel Dimonet, pour ceux qui connaissent Moorcock, des cheveux de craie. J'ai un personnage toulousain qui, lui, est un espèce de géant de 2 mètres, le boxeur rugbyman avec des épaules comme ça, le visage couturé. J'aime bien travailler sur la caricature, pour, déjà pour le côté aventure, le côté fun. Voilà, plus que par désir, par contre, d'être décalé à la base. Mais c'est, je pense, effectivement inhérent au genre fantastique à la base.
D'accord. Joe Abercrombie, vous écrivez aussi des romans qui sont dans un univers de fantasy, et fantasy au sens français du terme, qui sont quelque part, et ça n'a rien de péjoratif dans ma bouche, qui sont des univers très classiques, hein, que ce soit par exemple dans Servir froid, où là on est dans un monde qui ressemble un peu à celui de la Renaissance italienne, ou par exemple dans le tout dernier, là, Pays Rouge, là aussi on est dans un univers de fantasy classique. Pouvez-vous nous en parler?
Yes. It would be disappointing if I was unable to say anything. So I write, I suppose you might call classic fantasy, Lord of the Rings, Game of Thrones. These are my kind of high-selling inspirations. I suppose I like to work with familiar forms. The guys at the end were talking about archetypes before, and very few genre provide you with such kind of obvious, repeated, clear archetypes as epic fantasy.
Oui, il serait... Oui. Traducteur, c'est un métier. Il serait décevant de ma part d'en disconvenir, de dire autre chose. Je dirais que mes inspirations en fantasy classiques sont Seigneur des Anneaux, Le Trône de Fer, pour citer, disons, les plus connus, les plus grands best-sellers. Je pense que j'aime assez les formes familières parce qu'elles nous fournissent, on parlait d'archétypes juste avant, peu de genres fournissent autant d'archétypes identifiables, clairs, que la fantasy épique.
So although I try and have a world that's quite gritty, quite realistic, if you like, quite believable, I want readers to feel at home there, to feel they can relate to it, that the things that happen there are very relevant to our world. So although it's quite like our world in a way, there wouldn't be much point in writing fantasy unless you were going to exaggerate and have some kind of larger-than-life, over-the-top features to what you do.
Donc même si j'écris un monde de fantasy qui est plutôt assez sombre, réaliste, pas toujours très, très optimiste, j'ai quand même envie que le lecteur se sente chez lui dans ce monde-là et que justement il sente que par le réalisme, certains aspects réalistes du monde, il puisse avoir un lien avec, que le lecteur puisse avoir un lien avec ce monde-là et qu'il sente que les problèmes qui sont traités, il puisse s'identifier ou en tout cas ressentir et éprouver un lien vis-à-vis des événements du livre. Mais évidemment, ça n'aurait pas grand intérêt d'écrire de la fantasy si c'est exactement comme notre monde, et un des plaisirs, c'est justement d'exagérer, de forcer le trait autant qu'on peut, et ça fait partie du plaisir du genre et de la fantasy.
A lot of my characters are quite savage, violent, unpleasant people. They say right what you know. I suppose in thinking about how these people might really behave, I ended up with some quite borderline deranged, strange, weird thinking people.
Je suppose que donc du coup en écrivant ça, je me suis retrouvé avec des personnages plutôt assez peu recommandables, déplaisants, sauvages. On dit écrivez ce que vous connaissez. Je suppose donc qu'en faisant ça, je me suis retrouvé avec des personnages qui sont un peu borderline, un peu dérangés, un peu cinglés sur les bords.
Alors, ce qu'il y a de formidable, c'est quand on a des auteurs qui anticipent vos propres questions et qui commencent déjà à parler de la suivante avant qu'on ait fini la première. Ils lisent dans mon esprit parce que je voulais qu'on aborde ensuite justement la question des personnages. Et ça y est, Cédric et Joe ont déjà commencé. Mais avant qu'on passe donc au personnage, j'aimerais qu'on termine sur ce qu'on pourrait appeler le décor de vos différents romans, parce que dans les trois derniers, à chaque fois, on a un environnement qui est différent. Hein. Comme je le disais, dans Servir Front, on est plutôt dans un environnement qui ressemble un peu à celui de l'Italie de la Renaissance. Dans Les Héros, ça, c'est un décor plutôt moyenâgeux, pays peut-être un peu scandinave ou germanique. Et dans Pays Rouge aussi. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment vous choisissez aussi cet environnement d'abord?
I think with these three books in particular, I was trying to write, having finished a trilogy, trying to write some kind of more focused stories. And so I sort of took some basic archetypal stories, some styles of stories that I liked, and tried to develop, using the world I already had, tried to develop something within that context. And so Best Served Cold was my take on a gangster thriller, really. The Hero is a war story, and Red Country a western.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais donc écrit trois livres, une trilogie dans un même monde. Et après avoir fait ça, j'avais envie d'écrire des histoires un petit peu plus resserrées, un peu plus concentrées. Ce que j'ai fait, j'ai regardé un peu les types d'histoires un peu archétypales que je connaissais et ce qui m'intéressait dans ce style d'histoire et de développer quelque chose qui soit un peu en lien avec cela dans le monde que j'avais déjà et dans ce contexte. Et donc, du coup, je pense qu'on peut pouvoir dire, par exemple, que Servir Froid, finalement, c'est une histoire de gangster, que Les Héros, c'est un roman de guerre et que Pays Rouge, c'est un western.
I like to work with an established form, in a way, because I think it gives readers an expectation that you can then use to surprise them. And I really enjoy surprising readers. Some readers don't like being surprised, but that's tough.
J'aime les formes établies parce que justement ça crée des attentes chez le lecteur et ça me permet de les surprendre. Et moi j'aime surprendre le lecteur. Après il y a des lecteurs qui n'aiment pas être surpris, bah, c'est ballot.
Bien. J'avoue que je fais partie des lecteurs qui aiment bien être surpris et tous les quatre vous réussissez à me surprendre dans vos romans. Et alors entre autres, et vous aviez commencé à aborder ce sujet, il me semble que par contre s'il y a bien un point sur lequel vous vous retrouvez tous, vous partagez un petit peu les mêmes valeurs, c'est justement au niveau de vos personnages principaux qui eux me semblent peut-être pas déjantés mais en tout cas décalés par rapport à ce que nous connaissons. Sylvie, alors vous qui avez justement Lasserre, alors là, un privé, et il est bien décalé même par rapport à son monde, quelque part.
Oui, Lasserre est complètement décalé par rapport à son monde, parce que déjà, il se met un peu à l'écart. Lui, son but ultime, c'est de siroter son whisky au bar de l'hôtel dans lequel il habite. Donc déjà, il habite dans un hôtel qui s'appelle le Cher Ramon. Et donc il est tout le temps au bar au milieu des pachas qui sont en train de discuter et assez régulièrement des dieux viennent le déranger pour lui demander de travailler et donc ça l'ennuie profondément. Il n'est pas particulièrement intelligent, quoique si, il a quand même un certain esprit, mais il est assez paresseux, pas très courageux, c'est un petit peu l'anti-héros quelque part. Et finalement, il arrive à s'en tirer parce qu'il a toujours des idées de génie, une chance absolument incroyable. Et surtout, il est entouré par un certain nombre d'amis qui vont, au fur et à mesure, l'épauler pour l'aider à se sortir de tout un tas de situations. Donc, effectivement, par rapport au... On pourrait imaginer un détective comme étant quand même plutôt courageux, etc. Lui, pas du tout. Pas du tout, du tout. Il est complètement en décalage avec son univers. D'autant plus qu'il vient de Gaulle et qu'il se retrouve en Égypte. Donc il faut qu'il s'habitue à la vie là, aux dieux, aux gens. Donc il est expatrié. Il est aussi décalé de ce côté-là par rapport au pays dans lequel il vit.
Pourquoi moi?
C'est un problème. On a commencé dans cet ordre.
Allez,
voilà.
On continue. Alors. Donc les personnages, c'est ça? Il y a beaucoup de personnages dans mon roman, donc c'est un peu compliqué. Il y a un détective et un policier qui sont un peu des copier-coller de ce qu'on a dans la tête. Donc voilà, un peu aujourd'hui, mais un peu années 50 quand même. Et puis, on ne sait pas trop. Et puis, on a une sorte de gros de flic pas très intelligent, très balèze, qui s'appelle Bugnard, parce que, ben voilà. et une réputation de coller des bugnes. Et puis, il y a un jeune homme qui s'appelle premier de la classe, parce que le nom lui convient très bien, qui est une sorte de génie, mais complètement associable, que personne ne veut bosser avec lui, parce qu'il travaille dans des services de police, mais comme il n'a pas du tout les... Il ne sait pas bosser avec des policiers, il ne correspond pas du tout au stéréotype du policier, donc tout le monde le prend pour un débile mental. Et en fait, c'est un petit génie. Voilà. Et à côté, on a des fées, voilà, plein de fées. Enfin, pas plein, il y en a juste trois, ça suffit. Qui sont des êtres supérieurs, et donc l'être supérieur trouve que l'être humain est quand même une sorte de truc dont on pourrait se passer, mais bon, c'est là, c'est comme ça, hein. On fait avec. Et qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus, les personnages, voilà.
Oui, mais moi, ce que j'allais dire, c'est que, par exemple, déjà, vos personnages, ouais. ils sont bien décalés, ne serait-ce que par leur nom, parce que quand on est flic spécialisé dans les crimes atroces et qu'on s'appelle Petiot...
Oui.
C'est lourd à porter.
Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont remarqué l'allusion, mais enfin bon.
Moi, ça m'a frappé. En tout cas.
Donc Petiot était une sorte de tueur en série du temps les tueurs en série n'existaient même pas, en fait, où la notion n'existait pas. Et il s'appelait, je sais plus, le docteur Petiot. Voilà. Donc on a dit, je trouvais ça drôle. Le détective s'appelle Abdalov. Il y a une raison pour ça, mais vous pouvez pas la connaître parce que c'est une private joke. Et le petit génie s'appelle premier de la classe parce que il a dû être premier de la classe et tout le monde le perçoit comme une sorte de type à lunettes pas très intéressant mais qui sait tout, qui tout d'un coup va trouver sa place justement au fil et à mesure de l'intrigue et qui va commencer à prendre plus en plus d'importance et les autres vont devenir un peu des faire-valoir.
De toute façon, alors Abdalov, donc c'est une private joke, mais
très private, hein.
De se prénommer Marc Aurel. C'est pas facile à porter non plus.
Écoute, il a peut-être des antécédents grecs
et quand on est fait se prénommer Jaspucine.
Les fées, elles ont des prénoms jolis, quoi. C'est un peu des prénoms de fleurs, mais c'est des fleurs dont on maîtrise pas très bien l'orthographe. Donc on a Jaspucine, l'autre c'est Zélébor, et l'autre c'est Myosotel. Voilà, c'est très joli.
C'est similaire, je crois que vous vouliez réintervenir.
Oui, donc puisqu'on était sur les galeries de personnages, j'avais abordé juste le détective, qui pour le coup, oui, il est un peu décalé. Mais ceux qui sont le plus décalés, c'est en fait les personnages qui vont l'entourer, puisqu'il a un premier indique qui s'appelle Sphinxy, qui est donc un sphinx, et qui n'accepte de répondre aux questions que si on résout une énigme. Il a un tenancier de boîte de nuit, qui est en fait un ancien taureau sacré, taureau à pie qui a été épargné par les dieux et qui du coup se balade en salopette parce qu'il a un corps d'homme et une tête de taureau. La réceptionniste de l'hôtel, Fazimel, est aussi une jeune fille avec du caractère et assez étrange.
Mais oui. Je pense que l'idée d'avoir des personnages de base qui sont assez communs, on va dire, très stéréotypés, ça permet d'avoir à côté une pléiade de gens qui sont plus ou moins décalés et qui sont pas forcément les personnages principaux, mais qui vont apporter à la fois à l'intrigue et à l'univers, quoi. Même si dans mon cas l'univers il est tout à fait commun, il est plus barré quand même.
Donc je vois que c'est Cédric a ri parce qu'effectivement, Fazimel...
Cédric a ri !
Ça fait en fait référence à une grande amie, bon. Mélanie Fazi, auteure et traductrice, qui à une époque a travaillé comme réceptionniste dans un hôtel et dont l'adresse était fazimel@je-ne-sais-quoi. Donc voilà, private joke. Il y en a quelques-unes. Dans les private jokes, on a aussi un organisateur de spectacle qui rêve d'être maître du monde, qui est tout petit, tout nerveux, qui est toujours en train de donner des ordres à tout le monde et partir partout, et qui s'appelle Sark Osis. Voilà.
Cédric,
oui,
vos personnages aussi, ils sont un peu décalés.
Mes personnages ne sont pas aussi décalés que les leurs, dans le sens, comme je disais tout à l'heure, où mes romans se déroulent aujourd'hui dans un monde qu'on connaît bien. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant un peu, tous mes personnages, aussi bien les héros que les méchants, que les criminels, que les personnages secondaires aussi, ont tous un petit grain, sont tous un petit peu à côté. Et ça me fait sourire aussi, parce que c'est vrai qu'on a tous... ces jeux de mots, ou perso ou moins perso, mais pour trouver les noms des personnages. Dans un de mes romans, par exemple, dans Le Jeu de l'ombre, le personnage principal s'appelle Malco Swan. Et j'ai tout simplement pris le prénom de Malco Linge, des romans SAS, donc de la grande littérature française, et le Swan de Proust, et ça m'a donné Malko Swan. Mais ouais, je pense que chacun de nos personnages est créé comme ça à partir de patchwork d'ironie ou d'humour perso. Et donc pour revenir à mes personnages de ma série policière, c'est vrai que chacun de mes personnages, en général, se sent mal, ou dans sa peau, ou dans son rôle social, où mes flics sont quand même très atypiques. Je parlais de l'armoire à glace tout à l'heure, et de la flic albinos à Paris, qui ont des façons de gérer les situations, donc le Toulousain, par la violence, par exemple. Ça finit par lui poser des graves problèmes dans son boulot. Mais j'aime bien faire passer c'est pas des messages du tout, mais c'est des concepts, des idées, de relations humaines, de situations humaines qui m'intéressent et que j'essaie de métaphoriquement de placer au travers des personnages, de ce qui leur arrive, et souvent dans leurs réactions qui sont totalement décalées, ou y compris dans les personnages secondaires qui sont... c'est difficile de donner des exemples trop précis sans dévoiler des pans de l'intrigue, en fait. Mais par exemple, dans mon dernier roman, le méchant, puisque là, pour le coup, j'ai opté pour une structure très classique à la Columbo, où on connaît le criminel dès les premières lignes, ou les premiers chapitres, et les flics ne connaissent pas le criminel. Et ce type-là est un journaliste qui a une balle dans la tête. Littéralement, il s'est trouvé dans une fusillade une dizaine d'années auparavant. Les médecins n'ont jamais extrait la balle de peur de le tuer, tout simplement, dans l'opération. Et ce type, qui a eu un passé d'ado un peu délinquant, était devenu du jour au lendemain Monsieur Parfait, qui s'est intégré dans le système, qui est devenu donc une personne dans les feux de la rampe, comme modèle de réussite, d'insertion, Monsieur Parfait, qui en fait est le pire des tueurs en série qui existe, parce qu'il arrive à chaque fois à tuer différemment, à jamais se faire prendre, à toujours faire accuser quelqu'un d'autre à sa place. Donc on est vraiment là dans les apparences, et dans finalement qui la manière dont on perçoit les choses change tout, et la moralité est souvent différente de ce qu'on voit.
I liked his answer a lot. So can we just pretend that I made that answer?
J'ai beaucoup aimé cette réponse. Donc est-ce qu'on pourrait juste dire que j'ai dit cette réponse?
Vous ne vous en tirerez pas aussi facilement que cela.
You say you like his answers. Well, I like your accent.
You can take that. It's yours.
Donc Sylvie dit, vous aimez peut-être les réponses, mais moi j'aime beaucoup votre accent, et Joe répond, c'est très bien, vous pouvez l'emporter à la maison.
Bon. Non, et comme je le disais, Joe Abercrombie ne va pas s'en tirer aussi facilement que ça, parce que ces personnages aussi sont décalés par rapport à leur environnement. D'abord, par exemple, dans Servir froid ou dans Pays rouge, le caractère principal, c'est une femme. Bon, et une femme. Alors, c'est vrai, je viens de me percevoir que j'ai dit le caractère principal parce que ça, c'est l'anglicisme, le défaut de l'anglicisation. Mais ce sont des caractères qui ont du caractère. Ce sont des femmes qui se battent, qui se vengent, qui tuent, qui n'hésitent pas.
Oh yeah, I think classic fantasy often has people with amazing abilities who do amazing things, but seem quite banal in the way they think and talk and behave. They seem quite like ordinary modern day people.
Oui, tout à fait. Je pense qu'en fantasy classique, on a beaucoup de gens qui présentent des capacités stupéfiantes, mais qui finalement sont assez, ont beaucoup de banalité par ailleurs. Ils sont très banaux dans leur façon dont ils parlent, dont ils agissent, etc.
You sometimes feel you're reading a book with a whole set of frat boys from Harvard pushed into a fantasy forest where the fairies frolic.
Ça donne un peu l'impression que vous avez tout un tas de types fraîchement sortis d'Harvard qui se retrouvent dans une forêt de fantasy ou batifole des fées.
I really enjoy historical fiction, like say a great Viking book where it really gives you an insight into the way Vikings thought about the world. And often that kind of book can be much more strange and alien than an epic fantasy book where people seem quite normal and routine.
J'aime beaucoup, par exemple, les romans historiques où, en fait, vous prenez, par exemple, un bon roman de fiction historique écrit avec des Vikings. Finalement, c'est beaucoup plus étranger et différent de ce qu'on connaît qu'un roman de fantasy épique où, parfois, bah, vous avez des gens qui paraissent assez normaux dedans.
And also because a lot of them are very violent, unpleasant people. They're warriors, they're killers, poisoners, murderers. It kind of felt to me like many of them would be, in one way or another, psychologically disadvantaged, in a way that has pushed them to the outskirts of society.
Et c'était, par exemple, pour reprendre l'exemple des Vikings, c'était tous des gens extrêmement violents qui étaient des assassins, des tueurs, des empoisonneurs, etc. Et je me suis dit que beaucoup de ces gens-là devaient avoir quelques légers soucis psychologiques qui seraient probablement enclins à les repousser aux franges de la société.
I'm going to test my translator's skills now. I mean, so I have characters like a megalomaniac wizard, a barbarian looking for a better life who's cursed by a psychotic dissociative personality disorder. Okay. A psychopath with low emotional affect who is obsessed with numbers, a kind of compulsive obsessive disorder. Mm-hmm. These are the type of people I'm interested in. A self-obsessed poisoner based largely on myself, I must admit.
I will never try to do my best. Je vais donc tester les compétences de mon traducteur. J'ai donc parmi ma galerie de personnages un magicien totalement mégalomane, un barbare dont on pourrait considérer qu'il a un trouble dissociatif de la personnalité, un psychopathe obsédé par les nombres avec des troubles obsessionnels compulsifs, et un empoisonneur assez imbu de lui-même et obsédé par sa propre image qu'on pourrait considérer comme étant largement basé sur moi-même.
Le test est réussi.
He passed.
Bon. But most of all, I suppose I really just want the reader to feel like when they're reading a section from these points of view, I want them to feel like they're completely doused in these weird personalities and they can fully kind of understand, almost uncomfortably pressed up against these vivid and weird people.
Je suppose que ce que j'aime essayer de faire, c'est que mon lecteur ressente de tous ces différents points de vue assez atypiques et bizarres, c'est qu'une fois que le lecteur est pressé vraiment très près et dans la tête de tous ces types de personnalités extrêmement étranges et dérangées, c'est qu'il puisse peut-être même éventuellement les comprendre et que ce ne soit pas forcément très confortable.
Cédric, vous aviez, je crois...
Non, je suis entièrement d'accord avec ça, voilà, pour le coup. Non, c'est vraiment important.
You can't have the answer, that's mine.
I know.
Joe répond,
I tried, though.
Joe répond, vous ne pouvez pas avoir cette réponse, c'est la mienne.
Non, mais c'est vrai que ce qui est important dans un livre, en plus de divertissement, de grande aventure, c'est que le lecteur puisse être absorbé par ces personnages plus grands que nature, et décalés, pour le coup, et se disent waouh, enfin, soit vraiment dans soit à leur côté et se disent waouh, j'ai jamais rien lu comme ça, quoi, j'en veux encore ou j'en veux plus. C'est aussi pour ça, je pense, qu'on pousse ce décalage parce que c'est ludique, parce que c'est fun et c'est un moteur de plaisir.
Oui, je pense que ce type de roman, ça peut procurer une vraie évasion pour le lecteur qui va se dire, bah voilà, moi je suis ravie quand j'ai des lecteurs qui me disent, bah j'ai lu votre roman, j'ai pas vu le temps passer, puis alors je me suis détendue, ça m'a sorti de mes soucis, j'étais complètement ailleurs dans ce monde que vous avez construit, et qu'est-ce que je me suis bien marrée.
Ou complètement évadée.
Moi j'aime beaucoup parce que il y a beaucoup de gens qui ont besoin de s'identifier au personnage et donc là c'est cool quoi, d'être un psychopathe entre autres hein.
Par rapport à l'identification, c'est très amusant. Dans mon premier roman, qui était le plus décalé de tout ce que j'ai pu faire pour l'instant, tous les personnages sont totalement barrés, complètement. Il y a une magicienne de 600 ans, nymphomane, obsédée par la vie éternelle, des démons à 3 bits. Des gentils, mais qui sont psychopathes, collectionneurs de cadavres.
We all want that. What's unusual about that?
Et ce qui était amusant, c'est que je me moque de tous ces personnages dans ce roman qui est vraiment hystérique. Et j'ai eu des lecteurs qui sont identifiés à ces personnages. Je reçois encore régulièrement, non mais vraiment, des emails. Alors ils ont raison, c'est leur lecture, mais de gens qui m'expliquent qu'ils sont trop retrouvés dans tel ou tel personnage. Donc très premier degré, alors qu'au départ, je me moquais, mais complètement, je les mettais plus bas que terre. Et donc c'est amusant, la manière voilà, dont les gens s'identifient à des choses complètement barrées.
Pour les démons, est-ce qu'il y avait un mode d'emploi dans le livre ?
Non, mais c'était bien décrit.
Ça va juste trois fois plus vite, hein, c'est tout.
Ah oui. Je crois que nous allons revenir vers des terres un petit peu plus sérieuses. Il me semble que là, à cause de Cédric, nous égarons légèrement.
Oui,
il est intenable. Hein.
En Égypte, la serre a bien dû aller rechercher le sexe d'Osiris qu'on avait perdu et qui avait été bouffé par un crocodile. Donc.
Et c'est vrai que chez vous, Karim Berouka, il y a une fascination des fées pour l'utilisation de la guillotine qui, elle aussi, laisse un petit peu rêveur.
Bah, elle découvre quelque chose qui est... En fait, dans l'histoire... non, c'est pas tant les fées, je crois. C'est plutôt la bestiolette qui est très... Parce qu'il y a une bestiole qui s'appelle un huiton qui est une semi-invention qui n'aime pas du tout les fées. Et qui, dans le monde féerique que l'on ne connaît qu'à peine, passe sa vie à couper des têtes pour faire des trophées, pour accrocher au mur. C'est un peu c'est l'équivalent du chasseur aujourd'hui, voilà, tu vois. C'est très bête comme bestiole. Et tout d'un coup, il découvre la guillotine et il se dit, mais c'est génial cette invention. Enfin, les hommes ont inventé quelque chose d'utile. Parce que on peut choper le gibier qu'on vient d'attraper et lui couper la tête, c'est clean, c'est propre, pas besoin de toucher le fer parce qu'ils n'aiment pas trop le fer. C'est bon, voilà. Bah oui, bah les fées, les créatures surnaturelles n'aiment pas trop le fer, voilà, ni les cloches. Enfin bref. Donc pour une des rares fois, ils écrivent même, oh, quel génie, ces humains sont ingénieux. Bon voilà, bref. Parce qu'ils ont inventé la guillotine, voilà. Donc c'est tout. Hein. Si ça vous intéresse, j'ai les plans, tout. Si vous voulez guillotiner des fées, on peut le faire.
Vos personnages, eux, n'utilisent pas la guillotine, Joe Abercrombie, mais ils n'en ont pas besoin pour massacrer aussi allègrement.
Well, I mean, there are a whole range of other bladed implements that one can employ, and they do use a great variety of them. Yeah, no doubt.
Monza Mercato, elle a. Désolé.
Excusez-moi. Il y a tout un autre éventail d'instruments tranchants que les personnages peuvent utiliser et dont ils font effectivement usage d'une grande variété d'instruments à lame.
Donc je pensais entre autres à Monza Mercato dans Servir froid.
Yeah. what about her?
Elle tue beaucoup de monde et avec des lames variées pour assouvir sa vengeance.
Yeah, I mean she's a kind of mercenary captain, this woman. She's quite an intense personality again, very ambitious, driven and violent. I seem to have a lot of violent characters. Violent characters.
Oui, effectivement, c'est une capitaine mercenaire. Elle a une personnalité qu'on peut dire très intense, très ambitieuse, très violente. J'ai l'impression que j'ai pas mal de personnages violents, en fait.
But I think she's also someone with a hidden, softer side. No, not really. I'm joking.
Non, mais je crois que c'est un personnage qui a, en fait, finalement, une grande tendresse en elle. Nah, je plaisante.
Nous avons bien compris, d'après ce que vous nous avez dit avant, que si vous mettez en scène des personnages violents, c'est parce que vous-même, vous préférez le poison, c'est plus calme.
Yeah, I have this character called Morvia, also in that book, who is a master poisoner, a kind of self-obsessed narcissist. And I see a lot to like in that guy. I see in his relationship to the world, my relationship to the book world in a way. I'd like all other authors to kind of be killed so that I may stand alone as a colossus bestriding the genre.
Oui, dans ce livre, j'ai un autre personnage qui s'appelle Morvir, qui est un maître empoisonneur, et il est obsédé par lui-même, et c'est un narcissiste fini. Je retrouve un peu beaucoup de moi dans ce personnage-là, en tout cas dans ma relation au monde, la relation qu'il a au monde, ça rappelle un peu la mienne. J'aimerais que tous les autres auteurs soient assassinés, de façon à ce que je reste seul, tel un colosse, dominant le genre.
I have a lot of work to do in the English speaking author world, though, so I think the French are safe, at least for the time being. You can eat at the dinner tonight with a calmly.
Mais j'y reste encore beaucoup de travail avec le monde anglophone, donc je pense que pour l'instant les auteurs français sont en sécurité. N'ayez pas peur, vous pouvez dîner avec moi ce soir, mes camarades.
Alors, j'aurais une autre question parce que je vois que finalement l'heure passe très très vite. Est-ce que vous envisagez dans le futur d'écrire des romans, justement, chacun complètement différent dans le style d'écriture de ce que vous avez fait?
Well, I mean, I try to do something a little different each time, I suppose. You'd hate to get sort of into a rut where you felt people knew exactly what they were going to get. You know, book 78... in the series, you're bound to lose something by that point.
Bien, de façon assez générale, j'essaie de faire quelque chose d'un peu plus, qui soit un peu différent à chaque fois de ce que j'ai fait la fois précédente. Je détesterais tomber toujours le même sillon et qu'à chaque fois le lecteur devine ce qu'il va avoir. Je pense que quand on arrive au livre 78 d'une série, on risque probablement d'avoir perdu quelque chose en chemin.
But I think it is quite difficult to when you're established and known for a certain type of book, it's quite difficult then to write something that's really radically different, because the readers you've already got will tend to pick it up and they'll email you saying how upset they are that it's not book 78 in the series, because that's what they wanted.
Je pense que c'est un peu difficile quand on finit par être établi en tant qu'auteur et qu'on est connu pour un type de livre, d'écrire quelque chose de radicalement différent. Parce qu'à ce moment-là, les lecteurs qui ont l'habitude de ce que vous faites prennent le livre et sont assez déçus et vous envoient des mails en disant « Je suis déçu, ce n'est pas le livre 78 de la série, parce que c'est ce qu'ils voulaient. »
Est-ce que vous êtes d'accord avec cela?
Oui, c'est bien, mais c'est... Bon, je m'en fous, je suis pas un auteur établi, donc je peux me permettre... Le prochain, je le ferai en alexandrin. Et je pense aussi, c'est clair que les lecteurs ont tendance à vouloir avoir une continuité dans les livres, mais c'est bien aussi pas de les étonner, mais de forcer un peu le truc. C'est après, voilà. Le prochain bouquin sera différent, il ne parlera pas de fées, il parlera peut-être de, je ne sais pas quoi, d'ornithorin, comme j'en sais rien. Mais c'est un risque aussi, c'est sûr. Mais après... C'est vrai que quand c'est pas un métier, on peut se permettre largement plus de liberté.
Philippe Ward et moi, on a déjà écrit d'autres choses, et notamment, je repense au Chant de Montségur, qui était donc un thriller ésotérique avec des visées historiques sur le monde des cathares. D'ailleurs, il est très ancien, il faut le retravailler et on va peut-être avoir la chance de pouvoir le ressortir. Donc évidemment, là, pour le coup, absolument rien à voir avec l'environnement de la serre. Même si la serre, on a envie de continuer la série, mais sinon, on a 200 000 idées différentes, d'autres projets, repartir sur du fantastique, voire même flirter avec de la SF, on ne sait pas bien, mais... Pour l'instant, comme tu dis, on n'est suffisamment pas connu pour ne pas être enfermé dans un genre.
Alors, moi, c'est une question que je ne me pose pas, parce que pour l'instant, je ne pense pas avoir écrit deux fois la même chose réellement. Et c'est aussi quelque chose que je m'impose, de à chaque fois me surprendre moi-même, d'essayer des nouveaux horizons, des nouveaux schémas narratifs, une nouvelle expérience pour le lecteur, avec la promesse tout le temps pour le lecteur qu'il aura une expérience nouvelle. Ceci étant dit, comme je disais tout à l'heure, je suis pas quelqu'un qui se force. chaque année, j'ai envie de nouvelles choses, donc j'explore des horizons nouveaux. Mais au final, on retrouve dans toutes ces choses-là les mêmes obsessions récurrentes. Même quand j'essaie de les fuir et d'aller dans des directions totalement opposées, je me rends compte au fil de l'écriture que je suis en train de ressasser à nouveau mes vieilles obsessions. Donc du coup, ça, en toile de fond, ça donne une unité. Et ensuite, chaque lecteur a son opinion, aime ou pas. Et c'est amusant d'ailleurs de voir les différences radicales parfois de réaction des lecteurs.
Juste une petite question à Sir Cédric et à Joe Abercrombie. Est-ce qu'il n'y a pas une pression ou une demande de la part de l'éditeur justement de ne pas trop s'éloigner de ce que vous avez fait avant par rapport, au lecteur et à la vente, quoi?
Yeah. I mean, I think not necessarily even from a publisher so much as, you know, if you've sold a certain number of books, it's very hard then to kind of knowingly go for a project that you kind of know is going to do worse. You know, no one, however much you may be into this creatively, no one wants to sell fewer books with each book you publish. Mm-hmm. And it's a pressure from yourself as much as anything. I mean, you write books because you want them read. You know, the more readers, the better. Because then you can buy stuff as well as have readers.
Oui, je pense que sans même parler de pression éditoriale, je pense qu'il y a aussi une question personnelle, c'est que c'est quand même relativement difficile d'écrire des livres où l'on se dit qu'ils vont moins bien marcher que les précédents. Je veux dire, même si évidemment on fait ça pour l'art et pour le plaisir, et évidemment c'est la raison première, je pense que personne n'a envie d'écrire des livres dont on sait pertinemment qu'ils vont se vendre moins bien que les précédents. Donc je pense que c'est avant tout une pression personnelle qu'on se met parce qu'on écrit des livres, parce qu'on a simplement envie que les gens les lisent, et donc que y a des lecteurs. Bon, alors ça permet aussi d'acheter des trucs, en plus d'avoir des lecteurs. Mais
I've written 6 books. And then 2 more since. So 6 published and 2 others that are waiting to be published. And the first 3 were exactly what I wanted to write without a contract, without any thought about the audience at all. But as soon as your books are out there and you've got an audience to a degree, it's very hard then when you're thinking of your next project not to consider, will this do well? Will the publisher want to publish it? It's just one of those factors that's in your mind when you're considering what to write, I suppose.
Pour prendre mon exemple, moi j'ai écrit 6 livres pour l'instant. Depuis là, il y en a 2 dans les tuyaux qui vont être publiés sous peu. Les 3 premiers que j'ai écrits, c'était absolument sans aucune pression. C'était véritablement au cœur ce que je voulais écrire, sans aucune pression de public ou de réception ni rien. Mais à partir du moment où on a un public, ça devient extrêmement difficile de ne pas se demander ensuite est-ce que la suite va se vendre bien, est-ce qu'un éditeur va le prendre, etc. C'est un des facteurs parmi d'autres qu'on a dans la tête.
Alors moi je suis entièrement d'accord, mais j'apporterai juste une nuance qui me semble très importante. C'est-à-dire que oui, le but c'est à chaque fois de gagner en lectorat et de faire plaisir aux lecteurs qu'on a déjà, évidemment. C'est une pression personnelle permanente. En revanche, selon moi, ce qui est le plus important, c'est pas tant de leur donner ce qu'ils ont déjà eu ou la même chose, ou pour faire plaisir à des éditeurs ou des financiers qui ont toujours très peur, que la qualité soit là, quoi qu'on fasse, même si c'est différent, que l'on se dise que même si c'est l'opposé de ce qu'on a fait
c'est
jusqu'à
vrai,
présent, voilà.
C'est vrai.
De mettre la barre plus haut. Voilà, que la barre est toujours plus haut. Et plus on a du succès, plus la barre monte.
They don't really know what they want, the readers. You have to tell them what they want.
Les lecteurs ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. C'est à nous de leur dire ce qu'ils veulent.
Non, c'est vrai qu'on peut citer le cas de Robin Hobb, qui a été donc dans son univers de fantasy épique avec l'assassin royal, etc., et qui avait envie d'écrire d'autres choses complètement différente et qui, pour arriver à le faire, a pris un autre nom de plume de Megan Lindholm et qui a continué les deux carrières avec les deux noms de plume en continuant à publier des ouvrages, un coup dans un des environnements et un coup dans l'autre.
Et Stephen King et Richard Bachman ont fait la même chose.
Et Karim Berouquet, Bernard Werber aussi. Mais...
Bon, là, vous venez de bénéficier d'un scoop absolument extraordinaire. Alors, Et l'heure a tourné, curieusement, l'heure a tourné très très vite avec nos quatre auteurs. Et il y avait quand même une seconde partie dans l'intitulé de cette table ronde. Parce que moi, je suis toujours suis assez discipliné pour ça. Et la seconde partie de cette table ronde, c'était auteur décalé. Alors, comme pour déjanter, moi, je suis allé voir quand même ce que ça signifiait véritablement dans un dictionnaire décalé. Et j'ai lu que ça signifiait être sans conformité, sans rapport direct avec quelque chose ou quelqu'un. Alors, en conclusion, madame, messieurs, est-ce que vous vous sentez décalé?
Bah, moi, personnellement, déjà, je suis décalé parce qu'on me dit toujours que je suis 15 dans ma tête, j'ai un cyclotron et en plus, j'écris à quatre mains.
Non, moi, je suis parfaitement normal. Et voilà, je passe le micro à quelqu'un de décalé.
Non, tu décales le micro. Mais. Non, moi je vais juste citer Stephen King, sa phrase culte, mais que moi plutôt que de payer un psy des fortunes pour lui raconter mes cauchemars, j'écris mes cauchemars et c'est moi qu'on paye.
I'm just a totally normal, venomously ambitious sociopath without the feelings of shame or guilt.
Je suis juste un psychopathe parfaitement normal, avec une ambition terrible et vénéneuse, sans aucun sentiment de culpabilité.
Eh bien, sur ces très belles conclusions, merci beaucoup pour votre attention. Merci.